Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour chers auditeurs et internautes de Radio Okapi, ravi de vous savoir aussi nombreux à suivre votre émission préférée, Bana Okapi, un rendez-vous quotidien réalisé en partenariat avec l'UNICEF qui donne la parole aux jeunes, aux plus jeunes et aux parents à travers la RDC. Du lundi au vendredi dès 15h30 à 17h, nous explorons ensemble les réalités et les rêves de la nouvelle génération. Aujourd'hui, notre regard se tourne encore une fois vers la ville de Mbujimayi, où le paysage éducatif a connu une transformation notable grâce au projet Grand Kassai. Deux écoles emblématiques du centre-ville, les écoles primaires du 4 janvier et du 20 mai, ainsi que l'Institut Kalinda Mudishi, ont bénéficié de bâtiments flambants neufs. Si cette réhabilitation a été saluée avec enthousiasme par la population, elle a engendré un flux massif d'inscriptions. Conséquence directe, des classes pléthoriques, comptant parfois entre 60 et 80 élèves, d'autres atteignent même le chiffre impressionnant de 100 élèves. Alors comment se déroulent les apprentissages dans ces conditions? Quelles solutions peuvent être envisagées pour pallier le problème de la surpopulation scolaire à Mbujimayi? Ce magazine Bana Okapi répond à toutes vos questions. Restez avec nous pour ne rien rater. Stanislas Diumi, c'est moi à la présentation de cette émission qui se déroulera jusqu'à 17h de Kinshasa. Debs Vita sur la mise en onde, Christian Mapendano. Ia Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouakimofelele Dijano.
Bana Okapi avec Stanislas Diumi.
Au Kassai oriental, l'éducation primaire et secondaire bénéficie d'un nouvel élan grâce au programme de développement local de 145 territoires. Ce projet gouvernemental priorise la remise à neuf des infrastructures scolaires, apportant des réponses concrètes à des défis logistiques et administratifs de longue date. Deux établissements illustrent parfaitement cet impact à Mbujimayi. Le complexe scolaire 4 janvier, dont la rénovation est terminée, et l'école publique de Mudishi, actuellement en chantier. Le point avec Pascal Chinamula.
Sur les boulevards Laurent-Désiré-Kabila, dans la commune de Diloulou, se dressent désormais les complexes scolaires du 4 janvier, construits depuis des ans avec la main-d'œuvre locale. Cette structure imposante de deux niveaux comprend une trentaine de salles de classe, conçues pour accueillir plus de 1000 élèves. Quatre écoles publiques y ont trouvé refuge. Les écoles Boutamina 1 et 2, l'école primaire de 20 mai et l'Institut de la Révolution. Les écoles Boutamina, qui formaient auparavant une seule entité administrative, localisée au carrefour des avenues Chibombo et Lumumba, étaient confrontées à des difficultés grandissantes, privant des centaines d'enfants d'un espace d'apprentissage adéquat. Aujourd'hui, les complexes scolaires du 4 janvier offrent un cadre d'apprentissage optimal et suffisamment d'espace pour les écoles primaires Boutamina, désormais scindées avec leurs propres administrations. Si la qualité de ces nouvelles infrastructures suscite un engouement d'élèves, les enseignants se montrent confiants quant à leur capacité à encadrer ces effectifs grandissants. Monsieur Adalbert Kazadi, enseignant du cours de français à l'Institut de la Révolution, nous parle de cette routine quotidienne.
Nous avons respecté des critères d'une bonne classe. On n'a pas surpassé des limites parce que nous savons ce que nous devons faire. La classe normale a à peu près 45, 50, voire si on dépasse comme il y a de plus de demandes, si on refuse les enfants, on peut dire que nous sommes en train de saboter le chef de l'État, on peut aller jusqu'à 60. En tant qu'enseignant, nous avons un règlement d'ordre intérieur qui limite ce que nous, les élèves peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela que nous sommes à l'aise, nous enseignons bien, il n'y a pas d'impact sur ça.
Avec la réhabilitation de ces écoles, des centaines de milliers d'élèves jouissent désormais des conditions d'études optimales et d'un accès à une éducation de qualité dans des établissements publics grâce à ces programmes de développement des 145 territoires. Pascal Tinamoula, de retour de Mbujimayi, Radio Okapi.
Radio Okapi.
Pour mieux comprendre l'impact de cette réhabilitation, l'équipe de Bana Okapi est allée à la rencontre de ceux qui ont vécu le avant et le après du complexe scolaire au 4 janvier, les élèves de classe terminale. Ces jeunes ont pu expérimenter les conditions de leur établissement avant l'intervention du chef de l'État et témoignent aujourd'hui du confort qu'apporte cette rénovation. Écoutez-les au micro de Pascal Tinamoula.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Vous êtes de quelle école?
Du 4 janvier.
École du 4 janvier. Votre école a été réhabilitée par le président de la République dans les programmes de développement des 145 territoires. Nous sommes ici pour recueillir vos impressions en tant qu'enfant qui étudie dans ces écoles. Généralement, vous faites les 5e et les 6e années, c'est-à-dire que vous avez été dans cette école depuis la première et que vous avez vu comment l'école a été réhabilitée. Pour commencer, j'ai besoin de vos impressions pour savoir comment l'école était avant qu'elle ne soit réhabilitée. Dans quelles conditions vous étudiez en première, en deuxième et en troisième?
L'école, auparavant, il n'y avait pas de bancs, il n'y avait pas de carreaux. Les élèves se mettaient par terre, il n'y avait pas de toilettes. Ils étudiaient dans de mauvaises conditions.
L'école n'avait pas de bonnes conditions. Il n'y avait pas les bancs, il n'y avait pas les carreaux.
L'école était, apparemment, l'école était aussi bizarre. On n'avait pas le banc, les carreaux, le plafond, et aussi même des toilettes.
Deuxième question maintenant, je vais prendre le volet. Comment est devenue l'école juste après les réhabilitations? C'est-à-dire, après avoir donné le constat sur la façon dont était l'école, maintenant dites-moi comment l'école est devenue aujourd'hui après réhabilitation.
Tout d'abord, je remercie le chef de l'État pour nous avoir doté une bonne école. Et nous avons des bancs, des courants, des carreaux et des plafonds et nous étudions dans une bonne condition.
L'école aujourd'hui est devenue de bonnes conditions.
Qu'est-ce que vous voulez de plus pour que votre école soit le plus moderne possible?
Nous voulons qu'on nous donne un peu, on construit un peu une cantine scolaire parce qu'on vient de la maison sans manger, sans donner l'argent par les parents.
On cherche un peu aussi seulement quoi, ces cantines scolaires parce qu'on vient à la maison sans donner l'argent par les parents. C'est pour cela que c'est ce qu'on cherche, cantine scolaire.
Quoi autre on doit ajouter à l'école, à part la cantine scolaire?
On avait volé beaucoup d'ampoules dans les écoles. On avait volé des ampoules par les élèves de la secondaire. Maintenant, on cherche un peu qu'on nous achète encore d'autres. On avait des fenêtres. On avait encore coupé ça par les élèves de la secondaire. On cherche un peu encore qu'on puisse remettre un peu d'autres. On n'a pas encore vu de l'eau. C'est pour cela qu'on n'a pas encore même vu les toilettes. On nous a donné juste une toilette qu'on a construit de direct. Maintenant, on cherche un peu qu'on puisse un peu ouvrir un peu de l'eau, qu'on commence à entrer un peu dans des toilettes qu'on a construites de nouveau. C'est ça qu'on cherche.
Maintenant, aujourd'hui, après réhabilitation de votre école et tous les besoins que vous avez évoqués, quel appel vous lancez aux autorités, le président, le ministre de l'Éducation, pour que ces projets de réhabilitation des établissements soient pérennisés dans d'autres écoles?
On cherche un peu aussi que le président de la République puisse aussi un peu construire aussi d'autres écoles, que nos amis puissent aussi étudier, qu'ils puissent aussi étudier dans de bonnes conditions, que leur école soit un peu aussi propre comme notre école du 4 janvier, que les bancs soient là, des toilettes et des courants comme notre école aussi.
Demande un peu à notre président de la République pour construire un peu les autres écoles qui n'ont pas les bonnes conditions et qui n'ont pas les bancs pour que les écoles là soient comme notre école.
Merci beaucoup les amis pour cet entretien.
Merci.
Okapi. Au-delà de la satisfaction évidente face à la rénovation des écoles accueillant leurs enfants, les parents d'élèves de Mbujimayi ont choisi de ne pas rester de simples observateurs. Conscients de l'importance de ces nouvelles infrastructures, ils se sont activement impliqués dans leur gestion pour en assurer la pérennité. Dieudonné Mutombo Mbambamba, président du comité des parents de l'EP2, Boutamina, est au micro de Sarah Soumbela et Pascal Chinamoula.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour. Je m'appelle Dieudonné Mutombo Mbambamba, président du comité des parents de l'EP Boutamina 2.
Votre école, ou plutôt l'école Boutamina 2, a été réhabilitée par le chef de l'État. Comment avez-vous accueilli cette réhabilitation?
J'ai accueilli cette réhabilitation avec joie, avec satisfaction, parce que les enfants autrefois étudiaient dans de très mauvaises conditions. Parfois, ils sortaient à l'école très sales, parfois avec des chics. Cette fois-ci, les choses ont changé et même le niveau d'enseignement essaie un peu de changer. Parce que même ceux-là qui envoyaient les enfants à l'école privée, ils envoient maintenant leurs enfants dans notre établissement avec les symbioses des enfants d'autres qui venaient d'autre part. Ils ont influencé le niveau de nos enfants que nous envoyons à l'EP Boutamina 2.
Quel est l'impact que cette réhabilitation a eu sur l'éducation des enfants?
Tout d'abord, l'école a des renommées. L'école est devenue une école très importante. Et tous ceux-là qui envoyaient les enfants dans les écoles privées ont tendance à envoyer leurs enfants dans notre institution. Et parfois, on les envoie avec des recommandations. Mais il y a toujours un impact positif parce que ces enfants-là étaient autrefois étudiés dans de bonnes conditions. Ils influencent aussi nos enfants par leur façon de faire. Alors, il y a un peu un plus par rapport à autrefois.
Quel est l'impact négatif que cette réhabilitation a emmené à l'école?
L'impact négatif, c'est peut-être le surpeuplement. Pour cette fois-ci, on enregistre des classes 80 élèves, même parfois 100. Alors c'est un peu ça l'impact négatif aussi. L'éducation ne se passe pas. Bon, dont les enseignants commencent à attacher beaucoup d'importance à des élèves doués. Maintenant, les enfants qui ne sont pas doués sont sacrifiés.
Est-ce que vous, en tant que président de parents, vous avez déjà tenu une réunion pour parler aux enseignants par rapport à cette situation?
Effectivement, nous avons abordé le directeur. Il a dit qu'il est allé aussi se rechercher pour avoir une formation, une documentation qui permet à ce qu'on puisse... Donc, c'est pas la méthodologie pour pouvoir encadrer les enseignants afin qu'ils puissent être en mesure de tenir devant une classe surpeuplée. Nous avons aussi contacté la hiérarchie. Ils disent que non. Le président est là pour toute la République. Nous ne pouvons pas refuser les autres lorsqu'ils viennent. Et aussi, nous sommes en train de contacter que tout le monde puisse accéder à l'éducation. Alors, les refuser, c'est peut-être faire le contraire. Maintenant, nous sommes en train d'encourager le directeur, comme il est en train de dire qu'il est en train d'éroder les enseignants avec la formation qu'il est allé chercher afin d'encadrer les classes surpeuplées.
Après la réhabilitation de votre école, l'EP Boutamina 2, est-ce qu'il y a encore des défis à relever au sein de l'école?
Oh, il y a assez de défis. Tout d'abord, le problème d'eau potable. On est en train aussi, on a pesé. Ceux-là qui construisaient avaient laissé, n'avaient pas terminé, donc faire mettre de l'eau partout. Alors, nous avons encore bousculé. Ils ont construit, et c'est pas les tanks d'eau qui n'est pas encore terminé. Nous avons aussi le problème des latrines. Les latrines ne sont pas vraiment hygiéniques. Cela pose un petit problème. On avait même suggéré à ce que si les directeurs pouvaient payer, je ne sais pas, des lave-mains ou bien des bassins d'eau pour pouvoir entretenir les latrines. Le directeur à son tour a dit les moyens qu'on nous donne pour le fonctionnement ne pouvaient pas suffire. C'est ainsi qu'il nous a aussi recommandé de voir la haute hiérarchie. Nous attendons, nous sommes toujours confiants que peut-être dans les jours à venir, on peut toujours arriver à satisfaire nos demandes.
Et quel est l'état de l'école aujourd'hui par rapport au moment où on a rouvert pour que les enfants étudient?
Les bâtiments commencent déjà à se dégrader dans une vitesse de croisière parce qu'on ne retouche pas avec la peinture. Parfois, on avait suggéré autrefois que lorsqu'il y a casse, au lieu de renvoyer un élève, qu'on puisse constituer une caisse pour pouvoir payer ce qui pouvait peut-être être cassé. Mais très vite, on a combattu. On a dit que non, nous avons parlé de la gratuité. La gratuité signifie qu'on ne puisse pas payer quelque chose. C'est comme ça que nous sommes en train aussi d'observer.
Quelles sont les mesures que les parents mettent en place pour accompagner à la fois les élèves pour leur bon encadrement, mais aussi les enseignants et les autorités scolaires pour la mise en œuvre d'un bon cadre d'enseignement?
Nous organisons, selon notre structure, le comité de parents. Nous sommes membres d'un noyau appelé COGES, là où nous sommes en train de donner des directives par rapport aux habits, par rapport à certains comportements ou bien délaissement des enseignants. Nous avons également les réunions qu'on tient de parents pour donner les rapports. Il y a aussi des innovations. On a créé quelque chose appelé bilan. C'est là qu'ils ont les téléphones Android. Chaque semaine, on envoie les questionnaires aux élèves. Ils les recopient chaque semaine et on renvoie pour la correction afin d'assimiler la matière. On a rencontré aussi des difficultés par rapport à cela. Nous avons demandé à ce qu'on puisse même peut-être même donner à ceux-là qui ont des bureautiques aux environs de pouvoir recopier et puis les vendre même à 50 francs pour que tout le monde puisse accéder à ces exercices hebdomadaires.
Dans un cadre collaboratif, quel message pouvez-vous lancer aux autorités pour penser aux autres écoles qui n'ont pas bénéficié de ce don, parce qu'il n'y a pas que cette école comme école publique à Ndoudjimaï? Est-ce que les parents d'Ndoudjimaï ont un appel à lancer au président de la République ou au ministre?
Bon, nous avons toujours, nous sommes parents, nous n'avons pas seulement nos enfants, peut-être les enfants de nos cousins sont dans d'autres coins et recoins. Nous sommes en train toujours de demander avec insistance qu'on puisse construire beaucoup des écoles, peut-être dans chaque quartier, pour pouvoir même régorger, parce que je parle de surpeuplement. Si il y a dans chaque quartier une école de cette dimension qui peut régorger assez d'élèves, je pense que le problème-là pouvait aussi avoir une réponse adéquate.
Merci beaucoup, Président.
Oui, je vous remercie.
Okapi.
Si les nouveaux bâtiments offerts par le président de la République ont apporté un souffle nouveau à l'Institut du 4 janvier, l'établissement n'est pas exempt de défis. Monsieur René Kalala, préfet de l'Institut de la Révolution, une école qui fonctionne d'ailleurs au sein même de l'Institut du 4 janvier, revient sur le contexte qui a permis à leur établissement d'être sélectionné pour cette réhabilitation tant attendu. Il est au micro de Sarah Soumbila.
Bonjour Monsieur le Préfet.
Bonjour.
Nous avons appris que votre école a bénéficié d'un don du chef de l'État. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, c'est parmi les deux écoles ciblées par le chef de l'État. Il y a cette école et l'Institut Maurice qui n'est pas encore achevé. Même celle-ci, jusque-là, il y a certains travaux qui ne sont pas encore achevés, vu que le financement pose un peu de petits problèmes. Mais c'est une école ciblée au hasard par le chef de l'État pour qu'elle soit réhabilitée et puis construite. Nous avons quatre bâtiments. Les deux bâtiments en étage sont des nouveaux bâtiments construits et les deux autres là sont des bâtiments réhabilités.
Est-ce que votre école avait un problème avant que le chef de l'État a vu et puis ça l'a poussé à venir réhabiliter?
Oui, mais pas tellement. On peut dire oui, parce que jadis, on n'avait pas de beaux bâtiments, l'infrastructure n'était pas bonne. Même nos bureaux là étaient bourrés de chauves-souris, des excréments de chauves-souris et consorts. C'est ainsi que il a plu au chef de l'État de songer à nous. Mais oui, c'est ça au moins le problème que l'école avait. Mais comme c'est une école qui est sur la voie principale, parce que c'est sur boulevard L2 Kabylie ici, c'est l'unique école qui est là de l'État.
Okay.
Alors, et la deuxième est ici, mais celle-ci est protestante. Bon, mais l'école officielle de l'État, c'est celle-ci. C'est ainsi que, comme le chef de l'État avait étudié à Moudichi, il a voulu prendre Moudichi et annexer quand même une école officielle de l'État. C'est ainsi que nous avons été choisis.
D'accord. Et qu'est-ce que cela a apporté du point de vue de l'effectif des élèves et aussi pour les enseignants? Ces changements, ces constructions, ça a apporté quoi de concret?
Bon, le La construction ou la réhabilitation, ce changement nous a apporté un afflux exagéré d'élèves. Parce que tout le monde convoite être ici. Ce qui a fait que vous pouvez vous retrouver dans certaines classes. Certaines classes sont devenues pléthoriques. Nous luttons avec les normes, ça ne tient pas. Et surtout que chez nous ici, quand quelque chose est réhabilité par le chef de l'État, on vous dira que c'est notre école. C'est notre école, c'est notre école, c'est notre école. C'est ça le langage qui est là. Quand vous refusez à inscrire un élève, ça devient un problème. Donc ça a apporté aussi quoi le nombre de classes, les salles de classe ont augmenté. Et quand il y a augmentation des salles de classe, parce que jadis on avait 12 seulement, maintenant il nous a ajouté 18. Alors vous voyez que même l'effectif, normalement, l'effectif a augmenté. Et aussi, la structure, quand, là où on avait les 2 septièmes, maintenant c'est 4, 2 huitièmes, maintenant c'est 4. Et aussi, nous avons demandé à l'autorité nationale, notre ministre de tutelle, de nous accorder un arrêté pour nous permettre d'ajouter d'autres options. Okay. Bon, provisoirement, la province nous a d'abord accepté. C'est ainsi que là où on avait 3 options, maintenant c'est 6. Okay. Voilà, c'est ça, quand même un apport vraiment remarquable que la construction ici nous a amené.
Et le nombre d'enseignants aussi a suivi, vous avez augmenté.
Certainement, quand vous ajoutez les options, vous êtes obligé d'ajouter les professeurs. Ce qui nous a aussi créé des petits problèmes parce que vous voyez, sont tous les NII. Maintenant, les NII dépassent même les pays. Okay. Alors, ce sont des problèmes que nous avons soumis à l'autorité. Ben, nous attendons la réponse.
Et sur le coût financier, comment l'école arrive à tenir avec les nouvelles unités?
Ils vivent de ce qui. Parce qu'il n'y a pas gratuité au secondaire. Comme il n'y a pas gratuité au secondaire, il y a un arrêté du gouverneur de province qui a arrêté un certain montant, 9 500 par mois. Bon, vu leur nombre, nous amassons, mais avec difficulté. Pourquoi? Parce que dans les écoles de l'État, on refuse les renforts. Or, les parents d'ici, pour payer, il faut au moins que l'élève soit renvoyé. Si l'élève n'est pas renvoyé, bon. Il y a des parents conscientiels, d'autres, que nous stimulons à les faire d'eux-mêmes parce qu'ils nous pénalisent. C'est comme d'ici là, le mois de mars a pris fin, mais nous luttons encore pour réunir l'enveloppe que nous pouvons distribuer à ces enseignants-là qui travaillent.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Merci de nous avoir rejoints sur la fréquence de la paix pour la suite de votre magazine Bana Okapi, l'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et à leurs parents avec le soutien de l'UNICEF. Stanislas Diomi, c'est moi à la présentation de cette émission qui se déroulera jusqu'à 17h de Kinshasa. Debs Vita assure la mise en onde. Chris Yamapinda Nouya Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Monfélélé Dijano. Les écoles de Mbujimaï, récemment rénovées grâce à l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, font face à un défi majeur, la surpopulation. Les enseignants submergés par le nombre d'élèves peinent à assurer un enseignement de qualité. Si certains affirment avoir reçu une formation leur permettant de gérer ces effectifs importants, d'autres appellent le gouvernement à agir. Il demande la construction ou la rénovation d'au moins une école par commune à Mbujimaï, une mesure qui permettrait de désengorger les classes et d'améliorer les conditions d'apprentissage. Pour comprendre la réalité de ces enseignements et les solutions envisagées, restez avec nous pour cette deuxième partie de votre magazine Bana Okapi.
Bana Okapi avec Stanislas Diomi.
L'école primaire EP Boutamina 2, également hébergée au sein de l'Institut du 4 janvier nouvellement rénové, fait écho aux mêmes préoccupations. La forte demande des habitants de Mbujimayi désireux d'inscrire leurs enfants dans cet établissement exerce une pression considérable. Une situation qui, selon les dires de son directeur, M. Guillaume Kabuya Kaniki, entrave plutôt la bonne dispensation de cours. Écoutons son témoignage poignant au micro de Sarah Sumbila.
Alors, monsieur le directeur, votre école a été réhabilitée par le chef de l'État. Est-ce que comment d'abord vous avez accueilli cette réhabilitation?
En tout cas, je suis des personnes qui sont ravies, qui sont très contentes pour ce que nous vivons. Moi, j'ai toujours dit que j'ai vu le Paris ici en Mbujimayi à partir des infrastructures qui nous sont construites. C'est-à-dire, on a pu amener ça de infrastructures qui répondent aux standards internationaux. Ça, c'est un. Raison pour laquelle, après avoir construit, cela a attiré l'attention de toute la population. Chaque parent souhaite que ses élèves viennent étudier ici. C'est ainsi que nous avons, cela a créé l'afflux d'élèves. C'est chaque parent qui veut avoir, qui souhaite que son enfant soit élève ici. Mais malgré qu'on a augmenté quelques salles de classe, ça n'a pas pu affronter toutes nos préoccupations. Ça voudrait nous amener à la pléthorie des élèves dans une salle de classe. Quand vous dites que c'est déjà plein, le maximum chez nous est prévu 55 élèves. Tout au plus, on peut ajouter 5. Mais quand vous dites aux parents comme ça, vous êtes en retard, non, pourquoi vous êtes injuste? On nous a même acquis auprès de nos autorités, ceux qui nous ont même demandé jusqu'à vouloir un peu augmenter, jusqu'à aller au-delà des exigences pédagogiques, parce que au cours d'une séance d'animation pédagogique, il faut que chaque enfant ait une question à partir de son enfant. Mais s'il y a plus d'élèves, comment dans 45 minutes on peut atteindre tous les élèves pour avoir au moins une question? C'est une des difficultés. C'est pourquoi moi, malgré ce qui est déjà fait, que nous félicitons le président de la République, si on aurait érigé tous les 4 bâtiments en étage, si on aurait ajouté 12 classes, selon ce que nous avions dit, que notre complexe peut régorger, peut faire appel à 5 à 6 000 élèves, on n'allait pas avoir les difficultés. Mais sinon, c'est chaque classe, il faut avoir plus. C'est chaque moment qu'on vient demander pour faire inscrire l'enfant ici.
Et alors, avec des classes pléthores, comment vous faites pour vous en sortir?
Oui, nous sommes techniciens de matière pédagogique. L'enseignement a tout prévu. Il y a la pédagogie des grands groupes, c'est-à-dire on adapte l'enseignement par le groupe d'élèves dont on assure l'enseignement et on forme des groupes dans des salles de classe afin que les élèves qui deviennent plus saptes, qui saisissent vite la matière, encadrent leurs élèves sous la conduite du maître. On n'a pas cette difficulté. Même s'il faut faire la correction, même s'il faut donner des matières, vous trouvez que nos élèves sont à page, c'est à partir de là que nous atteignons tous les élèves qui sont mis à notre disposition.
Alors, quelle solution vous proposerez pour ne plus tomber dans des problèmes des salles pléthores avec les réhabilitations des écoles?
Ah, là, c'est une question que l'État doit répondre. Parce que nous avions même dit, quand les premières personnes qui étaient venues pour cibler cette école, nous avions dit que quand vous allez bien construire, ça va attirer l'attention de tous les parents. Il fallait mettre plus de classes pour satisfaire les besoins de tout le monde, parce que celui dont l'enfant ne vient pas étudier ici, c'est comme si une sorte d'injustice qu'on a accepté d'autres et pas mon enfant. Parce qu'avec la gratuité, si vous allez dans des écoles privées, vous ne trouverez pas plus d'enfants comme les écoles publiques.
Alors, monsieur le directeur, je vous remercie.
C'est vous que je remercie encore.
Okapi. Okapi.
À l'épée Boutamina 2, école primaire intégrée à l'Institut du 4 janvier, nous avons rencontré l'enseignant Mathieu Mukendikabwe Katanda. Pour lui, la rénovation de leur établissement est une immense fierté pour toute la ville et la province. Il souligne comment cette transformation a permis aux enfants de familles nanties d'intégrer l'école, ce qui n'est pas possible dans cette école en raison des conditions d'études précaires qui la caractérisent. Suivi.
Bonjour, monsieur l'enseignant.
Bonjour, madame la journaliste.
Comment avez-vous accueilli cette réhabilitation?
Oui, nous avons accueilli cette réhabilitation avec une très grande satisfaction. Pourquoi? C'était une école de l'État qui fonctionnait dans l'ancien bâtiment où il y a l'université officielle de Mujimaï. Alors, après avoir quitté là-bas, on nous avait confisqué les terrains par les étudiants et on nous a amenés dans le terrain du complexe scolaire du 4 janvier. L'école fonctionnait en briques adobe. Vous voyez sur le boulevard, l'école en briques adobe. Alors, quand le président Félix a pris le pouvoir, il avait envoyé son conseiller chargé des infrastructures. Alors, il est venu inspecter les terrains de l'école et il a vu que non. Comme c'était encore au bord du boulevard, l'école en briques adobe, ça ne sonne pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire. Raison pour laquelle il a contacté monsieur le directeur Guillaume Kaboya. Après l'avoir contacté, il lui a donné tous les éléments du terrain et c'est en ce moment-là qu'on a envoyé les ingénieurs et autres pour pouvoir construire maintenant les bâtiments que vous voyez.
Quel est l'impact positif de cette réhabilitation?
Bon, l'impact positif est que nous, on fonctionnait, on recevait les parents d'abord négligés. Juste après la réhabilitation, ce sont maintenant les parents qui ont des moyens, qui préfèrent envoyer leurs enfants dans cette école. Et l'école maintenant, c'est une école qui fait presque la fierté de toute la ville de Mujimaï, ou même d'une manière générale pour la province du Kasaï-Oriental, parce que l'école de l'État, l'État n'a jamais eu un bâtiment comme le nôtre ici. Et c'est une très grande satisfaction, d'abord pour la population, et pour les parents. Et chaque parent de la ville de Mujimaï veut envoyer son enfant seulement dans cet établissement, particulièrement à l'EPD Boutamine.
J'imagine que c'est aussi une fierté pour vous d'être enseignant dans une telle école.
Oui, c'est une très grande fierté, et surtout qu'il y a la gratuité, et raison pour laquelle, quand les parents comparent les grandes écoles de la ville, parce que quand les parents qui ont des moyens refusent d'envoyer leurs enfants dans des écoles de l'État, pourquoi? parce qu'il y avait de mauvais bâtiments. Maintenant, quand ils ont vu que c'est des bons bâtiments et il y a la gratuité de l'enseignement, raison pour laquelle nous accueillons beaucoup de parents, surtout les parents qui ont quoi, des moyens. Bien qu'il y a des classes pléthoriques, parce que les parents veulent envoyer leurs enfants toujours chez nous ici. Et quand ils comparent, bien qu'il y a beaucoup d'enfants dans des classes, mais en comparant d'abord la qualité de l'enseignement par rapport aux écoles privées, on constate seulement qu'il y a une qualité.
Avant la réhabilitation de cette école, vous aviez combien d'élèves et maintenant vous en avez combien dans votre salle?
Comme ici, à l'EP de Boutamina, avant la réhabilitation, on avait en moyenne 50 élèves par classe ou 60 élèves. Avec les nouveaux bâtiments ici, c'est presque tous les parents qui veulent envoyer leurs enfants ici. Alors nous avons constaté qu'il y a maintenant augmentation des effectifs. Parce que surtout les parents qui ont des moyens là, ils ne veulent pas encore dépenser l'argent dans des écoles privées. Ils veulent envoyer leurs enfants en voyant d'abord le bâtiment.
Vous avez parlé des classes pléthoriques. Mais quelle est cette magie-là que vous opérez, vous enseignants, pour qu'avec des salles de classe remplies d'enfants, vous arrivez quand même à avoir une bonne qualité de l'enseignement?
Oui. Notre boussole, c'est le programme national. Nous suivons ce qui nous est recommandé par le programme national. Et à partir du programme, on peut avoir plusieurs enfants dans une salle de classe. Et avec plusieurs enfants dans des salles de classe, quand vous transmettez la matière, il y a des enfants qui ont une compréhension facile. Et ces enfants-là, quand ils comprennent la matière, on peut les regrouper en groupe. Et à partir des groupes-là, directement, eux aussi vont prendre la relève. Ils seront aussi comme des petits enseignants, les encadreurs des autres faibles-là. Et il y a aussi les travaux journaliers que nous donnons. Et les enfants s'exercent eux-mêmes avec des devoirs, tout ça. Et les enfants parviennent toujours à s'adapter. Et avec la formation des classes pléthoriques là, et l'encadrement des enfants en groupe, et ou la stratégie en paire, c'est ça ce qui nous facilite quand même de gagner quoi, un grand pourcentage d'élèves.
Monsieur l'enseignant, si vous aviez un message aujourd'hui à lancer au gouvernement par rapport à cette situation de salle de classe pléthorique, ce serait lequel?
Oui, mon message est le suivant. Moi, je m'adresse particulièrement au président de la République pour lui dire que nécessairement, pour qu'il y ait vraiment qualité de l'enseignement, il faut qu'on construise des écoles de l'État, plusieurs écoles, et les écoles qui ont des structures, qui ont des nombres de classes inférieures, d'élargir des structures comme ça. Si on élargit des structures, et là, parfois, les élèves seront quand même moins nombreux dans des salles de classe. Si en moyenne, on a multiplié les écoles et après on a mécanisé. Parce qu'on peut multiplier les écoles, mais si on n'a pas mécanisé ces enseignants-là, ils ne sont pas pris en charge par l'État, ça aura toujours un impact négatif. La population du Kasaï oriental, ou la ville de Mbujimayi en particulier, cherche à ce que vous puissiez construire les mêmes bâtiments ici dans chaque commune. Si vous le faites dans chaque commune, et vous verrez qu'il n'y aura pas de classe pléthorique dans la ville de Mbujimayi ici.
Merci beaucoup, monsieur l'enseignant.
Merci, madame la journaliste.
Madame Mireille Sony, voulais-je dire, enseignante de cours à caractère commercial à l'Institut de la Révolution, met en lumière une nécessité fondamentale, limiter le nombre d'élèves par classe. Pour elle, c'est une condition essentielle pour garantir à chaque enfant la possibilité d'assimiler correctement les leçons. De plus, un allègement de la charge de travail des enseignants ne pourrait être que bénéfique pour l'ensemble du processus éducatif, selon elle.
Bonjour madame.
Bonjour papa.
Alors, à l'Institut de la Révolution, c'est une des écoles rénovées par le président de la République dans les programmes de développement de 145 territoires. Qu'est-ce que ce changement a apporté sur l'école de manière générale?
Oui, ce changement a apporté un plus du fait que dans les temps, vu les immeubles que nous avions, ça ne nous permettait pas d'avoir un grand nombre d'élèves. Et aujourd'hui, avec cette innovation, nous regorgeons un peu un effectif consistant. Et en plus, les enfants étudient dans de bonnes conditions qui leur permettent d'assimiler bien les matières.
Alors, la rénovation des écoles, de l'école a ajouté plusieurs classes aux classes qui étaient initialement ici. Est-ce que cela a aussi un impact sur l'augmentation du nombre d'élèves à l'école?
Oui, il y a eu l'augmentation parce qu'au départ, vu les bâtiments que nous avions, on n'avait que trois options. Avec cette innovation, nous avons y ajouté trois autres. Nous sommes maintenant à six options, ce qui a fait à ce qu'il y ait l'occasion des élèves.
Alors, vous, en tant qu'enseignant, comment vous gérez cette flambée d'élèves dans vos classes? Personnellement, vous, en tant qu'enseignant d'école commerciale, il y a beaucoup d'élèves ici qui s'intéressent aux options commerciales. Comment vous faites quand votre classe est pleine? Comment vous gérez cette...
Ici, nous ne prenons pas seulement l'effectif qui doit dépasser, vu qu'il y a aussi les conditions qui se posent. Il faut avoir au moins un nombre limité afin que l'enseignant puisse s'occuper plutôt de tous les élèves.
Alors, l'augmentation des écoles a aussi eu un impact sur l'augmentation des enseignants, notamment les enseignants des nouvelles unités, c'est comme ça qu'on les appelle. Comment ces enseignants ont été intégrés dans le système d'enseignement? Est-ce que leur prise en charge est bien garantie par l'école?
Oui, pour le moment, les enseignants appelés nouvelle unité, ils sont rémunérés juste de la prime provenant des frais des élèves. Jusque-là, l'État n'a pas encore pris la charge de ces derniers.
Est-ce que cela ça pose un impact dans la motivation des enseignants, sur la façon dont ils enseignent, le fait qu'ils soient nouvelles unités, qu'ils ne soient pas pris en charge par l'État?
Ça n'a pas tellement d'impact ici. Nous sommes appelés à servir la nation. Bien que nous ne sommes pas encore pris en charge par l'État, nous faisons d'abord notre devoir. Comme on a toujours dit que le salaire vient après le travail. Nous travaillons en attendant qu'un jour, nous aurons aussi la chance de toucher notre rémunération provenant de l'État.
Madame, je vous remercie pour vos contributions.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi.
Pour apporter un éclairage institutionnel sur la problématique des classes surchargées, nous accueillons Nicolas Prince Baéleaï en tant que directeur provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté pour la province éducationnelle Tanganyika 1. Il partagera les pistes des solutions envisagées pour résoudre ce défi. Il est au micro de Sarah Soumbila.
Avec la rénovation des écoles, notamment l'Institut du 4 janvier, les enseignants se plaignent de classes pléthoriques. Comment gérez-vous ces problèmes?
Bon, les conditions dans lesquelles étudient les élèves pour certaines écoles sont on ne peut plus difficiles. Les actions en faveur de la réhabilitation ou de la construction de ces écoles-là ne sont pas encore complètement réalisées. Il y a ces problèmes-là. Il y a le problème de la pléthore dans certaines salles de classe où, des fois, on arrive jusqu'à plus de 100 élèves dans des salles de classe des écoles primaires publiques et où on sent un besoin de modifier la structure des écoles, un besoin en termes de fabrication des bancs pupitres. Donc, le problème est réel et le besoin est immense et nécessite encore un appui de la part et des partenaires techniques et financiers et de la part de l'exécutif provincial.
Y a-t-il déjà des solutions envisagées pour résoudre ce problème?
Des écoles qui ont été construites, hein, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Il y a déjà quelque chose qui est fait. dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Il y a aussi des écoles qui sont récemment construites. Il y a des efforts qui sont faits allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Il y a quelque chose qui est déjà fait, mais les besoins restent vraiment immenses.
Nous voici au terme de ce numéro de Banaokapi consacré aux défis du secteur éducatif à Mbujimayi. Si la réhabilitation des écoles fruit du projet Grand Kassai a essoufflé une vague d'optimisme et offert de conditions d'apprentissage améliorées à de nombreux enfants, la question cruciale de la surpopulation de classes demeure un obstacle majeur à une éducation de qualité pour tous. Souhaitez-vous réécouter cette émission ? Revivre ces moments forts ou encore découvrir nos autres productions, rendez-vous dès maintenant sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, et n'oubliez pas, la discussion ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous sur notre page Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzali, Aploté, Yambenga, Guylaine Kassassia, Pascal Tinamoula, Grâce Mvuezolo, André Kitenge, Sarah Sumbila, Kelvin, Baeni, Greta Lulendo. Merci également à Christian Mapindanouya Chris pour la coordination de ce programme, à Jean-Marc Matoua Kimofele Dijano pour la supervision et à Deps Vita pour la mise en onde. Je suis Stanislas Diumi à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi. Yeah, 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 yeah